Véronique Riche-Flores, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du cabinet Riche-Flores Research. On va parler avec vous de macroéconomie et de perspectives économiques. C'est vrai qu'on a peut-être un peu plus d'interrogations maintenant qu'en début d'année, avec un peu de volatilité sur les marchés. La croissance économique, au global, elle est quand même toujours là?
Oui, la croissance est là, incontestablement. Maintenant, entre le constat de ce que nous renvoient les statistiques économiques, les tendances en cours et les attentes, j'ai quand même l'impression qu'il y a un écart qui est en train de se creuser. Les indicateurs économiques sont certes meilleurs qu'il y a un an, maintenant plutôt en voie de détérioration. Le commerce mondial s'est bien ravivé, mais finalement, quand on regarde dans le détail, il y a quand même beaucoup de prix plus que de volume. On voit qu'aujourd'hui, les échanges intra-asiatiques, par exemple, ralentissent assez fortement. Le Japon, qui avait eu une année 2017 assez surprenante, finalement redonne des statistiques médiocres. Et du côté des consommateurs, globalement, c'est pas bon. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, le relatif optimisme des entreprises a du mal à passer jusqu'aux consommateurs. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France et plus généralement en Europe. Et en Chine également d'ailleurs. Donc voilà, quand même un
Plus
peu de
mixte,
retenue
oui. Plus...
par rapport au consensus, disons.
Oui, plus de réserves. C'est vrai qu'en début d'année, il y a un sujet qui avait fait beaucoup parler, c'est celui de l'inflation. Ça a fait peur hein, au marché financier. Est-ce que c'est le sujet de l'année 2018 ou est-ce qu'il y a d'autres sujets plus importants qui vont être plus importants finalement que ce créneau de l'inflation?
En tout cas, c'est certainement le sujet du début d'année. Et je pense que c'est un sujet absolument central pour l'évolution des marchés financiers, des anticipations de taux d'intérêt, et pas seulement les anticipations, ce que feront ou non les banques centrales, en particulier la Banque centrale américaine. Et sur le plan économique, pour l'instant, ce n'est pas un véritable sujet. Donc effectivement, là encore, on voit bien que le scénario idéal, ce serait un peu plus de croissance, de demande, et quelque chose qui... réinstille un peu d'inflation dans les tuyaux économiques, sans trop. Alors, c'est là qu'on a du mal à trouver l'équilibre, effectivement. En début d'année, on a eu quelques signaux un peu inquiétants. Les marchés ont anticipé, finalement, ou redouté que ça aille trop vite, avec des prix du pétrole également en forte hausse. Et là, aujourd'hui, on est peut-être en train de réviser les choses, parce que en réalité, les hausses de prix passent difficilement. La baisse du dollar fait beaucoup de mal dans le reste du monde. En zone euro, on voit que les pressions sur les marges des entreprises sont à nouveau de retour. Et donc, finalement, c'est certes une inquiétude. Idéalement, on voudrait un petit peu plus d'inflation, sans trop, et on risque peut-être d'en avoir pas assez ou moins qu'anticipé, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle non plus du point de vue des marchés financiers.
Quand vous parliez de ces risques qui sont en train de poindre, notamment du côté du consommateur, est-ce qu'il faut, parce qu'on l'oublie peut-être, mais penser à la dette, à ces montagnes de dette, à la dette privée, et de se dire qu'il y a peut-être de ce côté-là un poids qui fait qu'on n'a pas peut-être un retour à la croissance classique.
Incontestablement, on a des niveaux d'endettement qui sont très élevés, qui font que la croissance du crédit est ralentie. Ça va mieux, les politiques des banques centrales portent leurs fruits, mais quand on a la chance d'avoir les données détaillées, on voit qu'effectivement, cet avantage monétaire, quelque part, ne bénéficie pas à la grande majorité des ménages ou des entreprises. L'ensemble reste très sélectif, de sorte que, d'ailleurs, c'est flagrant, depuis la crise de 2008, la masse des crédits aux ménages des pays industrialisés ou des entreprises n'a pas bougé. Donc, et ça, c'est vraiment donc depuis 10 ans. Donc, on a perdu un élément qui permettait, en l'occurrence, de compenser les faibles gains de pouvoir d'achat ou d'alimenter l'investissement, qui aujourd'hui est beaucoup plus rare, du fait, bien évidemment, des niveaux de dette.
Alors, il y a effectivement, ils sont plutôt minoritaires, en tout cas dans la médiatisation, mais on peut lire des choses aux États-Unis, notamment, certains qui sont un peu radicaux, qui disent finalement, cette action des banques centrales, elle a bénéficié aux marchés financiers, donc à ceux qui avaient déjà des actions, donc le fameux 1%, et à l'immobilier, mais que cette transmission à l'économie globale, elle n'a pas eu lieu. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est là un peu au cœur du débat?
Je pense qu'on est véritablement au cœur du débat. On l'a assez dit, hein, politique unijambiste seulement avec la seule action des banques centrales, ça suffit pas. En fait, on avait un cercle très vertueux qui a conduit néanmoins à la catastrophe de 2008, où l'aisance monétaire permettait d'offrir du crédit, de l'immobilier à la grande majorité des agents, en particulier américains, mais pas seulement, et d'alimenter un cercle de croissance vertueux jusqu'à la crise néanmoins. Donc c'était pas si vertueux que ça, mais ça fonctionnait. On a l'impression là que les banques centrales se sont dit, si on reflate les marchés financiers et l'immobilier, ça va réenclencher un cycle de croissance. Non, assurément non, parce que vous l'avez dit, on a des niveaux de dette très élevés, parce que la situation de croissance et d'inégalité qui se creusent font qu'effectivement, cela pèse sur la croissance économique, la dynamique économique, que des prix immobiliers élevés, ça se solde aussi par des loyers très élevés qui excluent de plus en plus ou qui rendent la charge locative de plus en plus élevée. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de mal, ça on le voit mieux aux États-Unis, avec le sentiment qu'en zone euro, on est en train de s'enfiler sur la voie américaine, ce qui est moyennement rassurant.
Alors c'est vrai qu'on a dans le langage des économistes parlé de politique non conventionnelle. Les banquiers centraux ont effectivement utilisé une autre manière, enfin ont été peut-être plus une autre méthode, on va dire, par rapport à 1929, qui était une crise financière équivalente. Et là, peut-être la difficulté, c'est justement cette sortie de crise, c'est comment on sort de de ces injections massives qui ont déformé les actifs.
Et c'est la question centrale, parce que les valorisations d'actifs sont très élevées, ça transcrit un niveau d'attente, hein, sur les rendements des entreprises ou des actions qui est très très élevé. Et dans ce contexte-là, soit vous avez des résultats immédiats ou une confiance dans ces résultats et tout va bien, on peut continuer à surfer sur cette bulle, soit les perspectives de résultats sont fragiles, les risques de hausse des taux d'intérêt drainent les investissements sur d'autres produits. Et donc, c'est un environnement extrêmement fragile, hein, qui tétanise à la fois les banquiers centraux. Donc, on voit bien que c'est très compliqué. On devrait avoir des taux d'intérêt quand même substantiellement plus élevés aujourd'hui. En réalité, on ne peut pas. Ne serait-ce que du fait de cette valorisation des actifs immobiliers et financiers en général. Également du fait de la fragilité du socle de demande qui ne peut plus être alimenté par le crédit. Donc c'est très difficile d'envisager d'en sortir. Par exemple, dans le cas de la BCE, on se demande aujourd'hui si la Banque centrale européenne pourra même arrêter son processus d'achat d'actifs à partir du mois d'octobre. Parce qu'en réalité, on sent que les marchés sont très, très fragiles et très sensibles à tout changement d'environnement du contexte monétaire et qu'en particulier, le taux de change est également revient dans la boucle avec un euro ou un dollar qui ne demande qu'à baisser aujourd'hui, donc qui limite considérablement les marges d'action des banques centrales en dehors des
Oui, on
États-Unis.
a souvent dit que les marchés les financiers avaient été drogués au taux d'intérêt bas. Et voilà, on en est aujourd'hui sur les effets de cette drogue à long terme.
Et il y a un peu de ça, effectivement, et la question étant de savoir comment on en sort avec des niveaux d'indice action tels qu'on a aujourd'hui, le risque d'avoir des pépins, des regains de volatilité, des accidents de parcours, hein, parce que finalement, si on perdait 20% aujourd'hui sur le S&P ou quelqu'un indice américain ou autre, hein, ce ne serait pas grand-chose au vu de ce qu'on a accumulé, mais ça pourrait effectivement créer des conditions beaucoup plus compliquées par la suite pour l'économie et l'équilibre financier global.
Merci Véronique Richflores.
Merci.